Oh là là, celui-là avec sa musique.
Ça vous gêne la musique?
Ça me gêne pas, ça me casse les pieds.
Décibel.
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 Décibel, c'est l'apéro radiophonique quotidien de PFM 99.9.
Du lundi au vendredi, de 18h30 à 19h.
Actu concert, nouveautés musicales, invités, cadeaux à gagner et aussi un peu d'actu social et culturel.
Une émission collective proposée par les animos de PFM,
Honorine,
Cassandra,
Élise,
Laura,
Alpha,
Vivien,
PCH,
Romain
et Nico Bibs.
Décibel,
décibel.
C'est un décibel un peu particulier ce soir, ce jeudi 3 avril, puisque à 18h30, commence le vernissage de l'exposition de tous les affichages de DJ Carole, puisque c'est de DJ Carole dont on va parler. Elle a exposé plus de 110 visuels dans l'espace du Couleur Café. Donc une fois que vous avez écouté cette demi-heure d'interview que j'ai réalisée sur place au Couleur Café avec donc Carole, DJ Carole, et où elle explique un peu tout son périple en tant que DJ. Et une fois l'émission terminée, vous pouvez, si vous voulez, venir au vernissage du Couleur Café avec tous les flyers, toutes les affiches, tous les visuels que Carole a designés pendant cette résidence de DJ pendant 10 ans au Couleur Café. Venez donc au Couleur Café sur la place des Héros à Arras. DJ Carole, on est dans le Couleur Café et il va se passer des événements pour fêter tes 10 ans de résidence comme DJ. Est-ce que tu peux d'abord, pour préciser pour les auditeurs de Radio PFM, préciser ton rapport au mix, simplement comme danseuse et auditrice quand tu étais jeune, ça a commencé comment ?
Alors en fait le mix est venu après et a débuté je dirais par une passion toute simple qui est une passion pour la musique de toute provenance et ça a commencé par à l'époque fréquenter un disquaire qui s'appelait le Micro-Sillon. Et chez lequel j'allais toutes les semaines, j'écoutais des tonnes et des tonnes de disques de vinyle qui étaient soit en pressage français, soit il avait aussi des disques directement importés des États-Unis. Et ensuite, en faisant mes études aux Beaux-Arts à Lille, quand il y avait des Beaux-Arts à Lille, eh bien, j'ai aussi fréquenté rue de la Clé, à l'époque où la rue de la Clé était une rue peu fréquentable, mis à part un disquaire peu fréquentable, parce qu'en en fait, il y avait des jeunes dames qui se baladaient dans les rues et qui sollicitaient les messieurs. Bref, donc je fréquentais un disquaire qui s'appelait USA Import. Et pour cause, puisque tous les vendredis, il recevait des imports directement des États-Unis, donc des projets musicaux et des disques qui n'étaient pas encore sortis en Europe et que j'avais la possibilité de m'écouter en exclusivité. Il fermait la boutique entre midi et deux derrière mon dos et à l'époque, je faisais une émission de radio qui s'appelait Transat. C'était sur Galaxy FM, Galaxy arageoise et non pas Galaxy du côté de la région lilloise. Et donc, j'écoutais tout en provenance des États-Unis, toutes les choses qui sortaient, je les enregistrais et je pouvais en faire bénéficier mes auditeurs eh bien, du début du samedi après-midi.
Alors là, on remonte rue de la Clé. Moi, j'ai aussi connu la rue de la Clé quand j'étais étudiant en architecture. Mais c'était, il y avait quelques disquaires encore. Mais il n'y avait plus les dames. En tout cas, ils étaient plutôt dans le Vieux-Lille. C'était plutôt du côté du tribunal, l'avenue du peuple belge. Et donc, mais il y avait encore des disquaires et puis des chaussures de pont, des pompes londoniennes, tout ça, des creepers, tout ça, parce que c'était la mode à l'époque. Moi, c'est vieux aussi. Mais bon, voilà. Bref. Pour continuer ton périple musical, quand tu commences tes mix, tu commences donc sur l'île ou ailleurs, ou tu Comment ça commence vraiment le fait de mixer ailleurs que dans la radio Galaxy?
Eh bien, ça a commencé, mes velléités se sont véritablement affirmées. Un jour de braderie de puces à bidasse sur les places où j'ai pris mes petites mains et ma musique sous le bras et je suis allée voir Denis qui tenait à l'époque l'Estaminet, où je voyais bien qu'il y avait un brassage multiculturel, multisocial, et je rentrais donc de l'été d'avant avec une pile de CD qui m'avait été offert par Joe Galdo, le producteur à l'époque d'Angelique Kidjo, et qui était donc d'origine cubaine et qui m'avait emmené sur la Calle Ocho chez un disquaire et qui m'avait fait le plaisir et le grand honneur de m'offrir donc une série de Celia Cruz. Donc je suis rentrée des US avec toute cette musique latine originelle de Cuba et vu la montée à l'époque des rythmes salsa et cubains, eh bien je me suis dit que j'allais peut-être y faire des soirées. Donc à l'époque, mon nom de DJ était Rolka comme Carole à l'envers et Caliente parce que j'étais festive et que je voulais planter la fiesta. Donc ça a duré quelques temps. Ensuite, je me suis un peu, entre guillemets, expatriée sur l'île. Et ça n'a pas été une paire de manches, puisque à l'époque, c'était la musique club qui envahissait les bars, qui commençait tout juste à diffuser de la musique avec des DJ. Et moi qui arrivais avec mes sons un peu global musique et latine, c'était pas facile. Donc ma première résidence a été au Loca Loca, qui n'existe plus, qui était place du curé Saint-Étienne, il me semble, non loin de l'église. Et c'est là que j'ai commencé à faire mes premières soirées complètement ouverte sur le groove métissé en provenance de plein de pays différents et aussi des soirées bien tatouées au groove américain et à la black music.
Alors, pour revenir, puisque tu as des références tout de suite cubaines en venant des États-Unis, moi qui suis salsero, et donc tu as ramené des disques de Celia Cruz, donc on est avant son décès en 2003, là. J'imagine que c'est des CD qui sont sortis ou c'est des imports, c'est quoi? Qu'est-ce que tu ramenais des États-Unis concernant Celia Cruz ou d'autres en tant que musique cubaine, on va dire, principalement?
Alors, bien sûr, c'était dans le paquet que m'a offert Joe Galdo, il y avait Celia Cruz et Johnny Pacheco,
oui.
Voilà, c'est ça. Donc, c'était plutôt des anciens morceaux,
oui.
Et pas forcément des choses très actuelles. Oui. Ensuite, voyant que c'était un petit peu dur pour, entre guillemets, m'imposer en tant que femme dans cet univers bien patriarcal et bien tatouée à la testostérone, je me suis rapprochée de Mario de Radio Latina qui m'a raconté un petit peu son expérience, et je me suis rapprochée aussi d'une DJ qui mixait à l'époque dans cette petite rue piétonnière du côté de Bastille, et mince, son nom m'échappe, mais il va me revenir d'ici la fin de l'interview. Et donc elle m'a expliqué un petit peu cet univers, et puis après j'ai retroussé mes manches. Et puis des personnes m'ont tendu la main, et de cet univers focalisé sur les musiques plutôt latines, brésiliennes, tropicales, je me suis complètement intéressée et penchée d'où ces musiques provenaient, donc de l'Afrique. Et donc j'ai développé une une grosse proportion à collectionner les originaux, à la chasse au vinyle, chez les disquaires bien sûr, mais dans les grandes foires aux disques et celles qui à l'époque étaient et qui continuent toujours en Hollande, où on voit passer les plus beaux disques.
Alors c'est des sons, donc on voit que tu reviens forcément quand la musique afro-cubaine, il y a afro, donc tu reviens aux musiques africaines et tu recherches ces sons-là, mais des vieux trucs que tu remixes, comment ça se passe déjà, tu les mixes déjà ou ça va venir ou comment ça se passe, on est combien de temps après tes débuts là sur Radio Galaxy?
Ça fait une petite dizaine, une bonne dizaine après, puisque entre-temps j'étais maman, donc j'ai pas eu trop le temps de me préoccuper de tout ça, mais je suivais déjà tout ça de loin. J'ai un peu raté la période début mi-90 où il y avait ce qu'on appelle maintenant le hip-hop old school, qui était vraiment une période magnifique. Et en fait, mes engouements premiers ont été pour une musique noire américaine, très portée sur le jazz et le blues. Et très vite, je me suis tournée vers des sons plus métissés et en creusant, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas du tout Internet, mais en lisant des revues, en m'intéressant aux écrits des artistes et aussi en lisant les pochettes de disques, ce qu'on pouvait retrouver un peu sur les pochettes de CD, c'est-à-dire, et ce qu'on ne retrouve plus en écoutant ou en achetant du digital ou en se vouant corps et âme et oreille à Spotify, on ne sait pas d'où vient la musique, qui l'a faite, qui est derrière la production, qui sont le producteur ou le bassiste. Cette culture musicale, de comment elle est faite, par qui elle est faite, pourquoi elle est faite, je trouve que on la perd beaucoup, et c'est dommage parce que c'est un acte artistique et il n'y a pas de fumée sans feu. Donc c'est toujours intéressant de se pencher sur d'où provient cette musique, pourquoi elle a été faite, et surtout de voir que de toute façon, avec les voyages qu'ont entamé tous les musiciens, eh bien toutes ces passerelles existent. Elles existent en dehors du fait de cette mouvance forcée de l'Afrique vers le continent américain, mais en sachant que aussi les musiciens de l'Est se sont baladés aussi partout, et il est souvent curieux de retrouver des sonorités indiennes ou balkaniques qui se retrouvent dans une culture sud-américaine, colombienne, et ça c'est génial parce que de toute façon on est tous métis, bien que certaines personnes refusent de voir la chose et sont complètement obtus, et que la richesse est effectivement dans ce brassage et dans ce métissage, et sans pour cela désavouer nos cultures, mais rien qu'en observant des projets musicaux d'artistes magnifiques, pour en revenir à Cuba, je pense bien naturellement à Omar Sosa, qui est un grand artiste cubain qui a fait et qui fait évoluer dans tous les sens sa musique, son expression musicale, qui n'est pas dénuée de ses racines. Mais il y a quelques années, il faisait des projets avec des rappeurs de New York, et il continue. Et au-delà de ça, c'est véritablement un personnage et un homme magnifique.
Oui. On voit bien, ça me donne une idée, une petite question, un peu pour prendre un peu de la hauteur, parce que quand tu parles, que tu apprenais beaucoup de choses sur les pochettes de disques et toute cette culture qui se faisait analogique, on va dire, à l'époque analogique, et tu trouves que maintenant, en fait, il y a un peu une acculturation. Comment ça se passe dans le milieu du DJing, que je connais pas du tout, mais peut-être dans ceux qui pratiquent tout simplement en discothèque, il y a un côté comme ça où on perd un peu les racines musicales, les passerelles dont tu parlais.
Alors, c'est vrai que dans à une certaine époque, je dirais peut-être un début ou une florescence des discothèques dans les années 70-80, effectivement, les DJ avaient une toute autre culture. Alors, d'une part, c'était aussi les propriétaires des discothèques qui achetaient les vinyles. Ils n'étaient pas forcément les propriétés des DJ. Le DJ allait et piochait. Et en fait, le DJ avait ce rôle de faire découvrir, puisque généralement, effectivement, il s'approvisionnait pas forcément chez les disquaires, mais chez dans des endroits où on pouvait écouter de la musique, principalement importée des États-Unis. Et je trouve aussi que l'univers de la discothèque est totalement has-been et qu'il a été remplacé par d'autres endroits comme des friches que l'on voit fleurir un peu partout en France et en Europe, où en fait il y a une proposition multiculturelle, et c'est ça qui est intéressant et qui revient sur le fait que on peut consommer autrement et dans le partage de la musique, des informations musicales, puisque ces lieux généralement sont voués à faire du live et à donner la parole à des gens qui peuvent ouvrir les esprits et surtout faire des passerelles et avoir et continuer le rôle social de la culture. Alors, c'est une démarche qui paraît bien fort intellectuelle, mais elle est, de toute façon, si on prend l'exemple où nous sommes aujourd'hui, c'est un peu le rôle de convivialité que s'est donné le Couleur Café.
Merci pour ce petit panorama dans le mouvement du DJing. Maintenant, par rapport à toi, est-ce que tu as eu l'occasion de mixer dans ces lieux alternatifs, ces friches, et à quelle année ça a commencé à peu près? Est-ce que tu vois dans tout ce que tu as fait, quand c'est émergé, ces nouveaux lieux en fait qui mettent un peu les discothèques en hors jeu, quoi, comme tu disais?
Eh bien, c'est... Alors d'abord, je voudrais rendre hommage à Patrice Buzinski, qui a été l'un des premiers acteurs culturels arrageois à me faire confiance, à me questionner, puisque lui était programmateur des musiques actuelles au Théâtre d'Arras. C'est lui qui a créé le Pharos à Arras, Pharos qui entre-temps a brûlé, et lui en fait a créé ce Pharos pour faire une passerelle justement culturelle et sociale entre le centre-ville et les quartiers ouest d'Arras. Et donc à un moment donné, il m'a programmé, donc étant bien vacciné sur ces musiques latines, sur un passage de concert de Papy Cubain à Arras, et m'a ouvert les portes lilloises en me connectant avec un réseau associatif culturel qui à l'époque s'appelait RIF, et qui ont été les premiers à faire un festival qui s'appelait La Noche, qui était un brassage justement multiculturel musical. Et c'est grâce à lui que en fait je suis arrivée dans ce milieu lillois qui en 2004 a été capitale européenne de la culture. Et c'est à partir de cette époque-là que des friches ont été restaurées, ouvertes au public pour l'ouverture de Lille capitale européenne de la culture, portée à bout de bras par l'association Lille 3000. Et ça a permis justement de mettre une culture musicale qui n'était pas forcément clubbing. Je veux parler de la culture à l'époque très électro ou très house dans les bars, mais de mettre la place à quelque chose de plus métissé, lycée de plus world music. Et c'est comme ça que j'ai été amenée ensuite à mixer à la gare Saint-Sauveur, au bistrot plutôt de Saint-Sauveur, qui était à l'époque dirigé avec intelligence de main de maître côté programmation par Ludwig, qui était la vocation, enfin ce lieu était la vocation première d'ouvrir sur les quartiers et de donner accès gratuit à des DJ, à des lives. Et à l'époque on voyait très bien des gens des quartiers venir avec leurs petits sièges pliants, s'écouter, ce qu'on a perdu maintenant parce que l'endroit a changé de
public,
de public et de concessionnaire, et je trouve a perdu sa vocation populaire à offrir une pluralité et est devenu un lieu un poil trop
gentrifié
et électro. Alors je ne vais pas avoir de mauvais propos sur l'électro parce que j'en diffuse moi-même et j'en suis friande, mais en fait donc ça a été ma première expérience dans les friches, ensuite programmée dans divers festivals et toujours avec je dirais pas un retour aux sources mais presque, parce que finalement je suis arrageoise de naissance, je suis arrageoise de cœur, et revenir régulièrement dans des bars comme à la maison, comme le Couleur Café et aussi à Lille, rue des Postes, le Locaria, où je retrouve cette bienveillance, cet accueil formidable et surtout une culture de la part des personnes qui tiennent les endroits, une culture musicale, et ce ne sont pas forcément, comme je les appelle de façon péjorative, des limonadiers, c'est-à-dire des gens qui n'en ont rien à faire de la musique, qui nous demandent combien de personnes on va ramener, enfin bon bref. Je suis moi-même une femme, une petite fille de la pub, mais donc en fait, continuer à aller de l'avant, c'est-à-dire aller voir ailleurs si j'y suis et à rencontrer des publics complètement différents, dans des univers différents, mais être reconnaissante vis-à-vis des personnes qui m'ont offert la possibilité de partager tout ça et de planter la fête chez eux. Oui, j'y retourne régulièrement et c'est toujours un très grand plaisir.
Alors, on voit, on comprend un peu ta philosophie, puis ta fascination et ton goût du métissage et du croisement des origines musicales comme des populations. Et on comprend un peu mieux tout ton background musical et ce que tu en as fait après en tant que DJ. Là, on est aussi pour une exposition d'affiches que tu as ramenées sur ton dos. Et tu m'as dit qu'il y avait 111 visuels, je crois, et c'est assez énorme. Et donc, raconte-nous un peu ce que c'est, ces 10 ans de résidence ici au Couleur Café.
Alors oui, alors donc pour dévoiler, encore que je l'ai presque fait il y a quelques propos passés là au bout du micro, je suis aussi donc une fille de pub, j'ai consacré toute ma vie à la communication visuelle, au graphisme, en étant directrice artistique dans une agence dans laquelle j'ai passé 40 ans, quelle horreur, je suis dans le Guinness des records parce que ça n'existe plus de consacrer et de se vouer corps et âme à un seul endroit. Et donc en même temps, il faut avouer que la passerelle entre le visuel, l'audiovisuel et la pratique du DJ set ou la culture musicale est facile. Et à l'époque où j'ai commencé, effectivement, je me retrouvais toujours en face de DJ qui étaient un peu sous le même profil. Donc, en commençant à mixer, je proposais aussi un univers qui non seulement me ressemblait, mais plutôt ressemblait ou plantait un contexte visuel qui racontait un petit peu ce qu'allait être la soirée que je proposais pour que les personnes, le public comprenne la problématique et que je fasse no request et que je me retrouve pas avec la demande de Patrick Sébastien ou de Dalida que je respecte d'une part parce que de toute façon jusqu'à il y a 3-4 ans mes mix sont 100% des mix vinyle. Et donc, et ben voilà, la sélection, elle est dans mes bacs et elle n'est pas autre part. Et je ne peux pas, au-delà du fait que de toute façon, ce n'est pas ma vocation, je ne peux pas offrir le dernier
Patrick Sébastien
remixé techno.
Bon, ben, c'est rassurant. Moi, personnellement, je trouve ça rassurant. Pour enchaîner, pour parler, donc il y aura tous ces visuels d'affiches qui vont décorer ici le Couleur Café. Et le lendemain, donc le vendredi 4 avril, tu vas mixer. Et qu'est-ce que ça va être ce mix? Tu vas nous emmener où? Tu vas partir, on va partir d'un point A jusqu'à un point Z. Comment ça va se marcher?
Alors, pour en revenir au vernissage et à cette exposition, donc c'est aujourd'hui, vers 18h30, 19h. Et donc oui, effectivement, le couleur sera tapissé de couleurs parce que je suis quelqu'un qui adore manipuler et jongler avec les formes et les couleurs, les montages photos. Donc ça, c'est ouvert à tout le monde, cette exposition. Et donc, le lendemain, c'est-à-dire eh bien demain, à partir de 19h, et oui, on va commencer la fête, eh bien, je vais faire, donc, je vais ramener, ça représente presque le nombre de flyers et d'affiches que je vais tapisser, ça représente environ 120 vinyles, donc c'est un petit peu lourd, que je vais mixer tout au long de la soirée, et ça sera un voyage non pas vertigineux mais très convivial, mais aussi vertigineux entre le hip-hop, le funk, la soul, le breakbeat, un peu côté jazzy, un peu de bossa nova. Ça sera un panorama de...
Un peu de Balkan aussi, tu parlais tout à l'heure, et puis d'Indien, parce que c'est
oui,
un peu des nouvelles tendances peut-être.
Oui, un petit peu de tout et de bon. Et cette marmelade, elle sera très festive, comme elle l'est toujours au Couleur Café, que ce soit moi qui plante le décor ou les artistes musiciens qui viennent tous les dimanches nous ravir les oreilles, tout style confondu, et aussi... parce que ces 10 années au Couleur Café n'ont pas été que pour me mettre en lumière et en valeur, mais avec Valentine et d'un commun accord, j'y ai fait la programmation musicale et la programmation d'invités DJ qui sont venus de tous les univers différents. On a eu des gens qui venaient de Saint-Étienne, de Bruxelles, de Genève, de Paris, hommes et femmes collectionneurs et collectionneuses de vinyle. Et oui, il n'y a pas que les messieurs qui collectionnent les disques. Et donc, ça a été pour moi l'opportunité de faire découvrir d'autres univers, d'autres personnalités et d'autres passionnés. Et il faut avouer que c'est un réel plaisir de rencontrer tous ces DJ différents, de parler musique avec eux, de les voir tripoter leurs pochettes de disques, raconter plein d'anecdotes autour des morceaux. Et ça, ces 10 ans et ce marquage, c'est réellement festif. Et au cours de ces 10 ans, il y a eu aussi des temps forts au niveau rendez-vous, puisqu'on se fait un plaisir, Valentine et tout le staff du Couleur Café, d'accueillir des moments privilégiés pour mettre en lumière les artistes au féminin. Donc c'est comme ça qu'il y a eu des plateaux de groupes 100% féminins programmés le 8 mars ou le week-end du 8 mars pour rendre et célébrer la journée internationale des droits des femmes. Ouais. Mais il faut avouer qu'il n'y a pas que le 8 mars et le week-end du 8 mars qu'ici au Couleur Café on accueille les artistes féminins. Ça se fait de façon naturelle et avec cette volonté d'open mind qui tatoue le Couleur Café.
Merci beaucoup Carole, pour tout ça. Je crois que tu as été rebaptisée maintenant. Tu m'expliquais ça à Bangkok. Le personnel t'a gentiment. Donc tu as un nouveau blaze, comment dire en hip-hop. Je ne sais pas comment on dit dans le milieu du DJ. Et peut-être pour lancer la soirée, tu aurais peut-être une phrase à déclarer. Je sais que tu mettais du move, du groove sur ton profil Facebook. Je ne sais pas si c'était un gimmick que tu disais de temps en temps à tes usagers, enfin je sais pas, les danseurs qui venaient danser sur tes sons. Et en tout cas, voilà, je te laisse un petit peu lancer le mix, le petit mix de cette soirée.
Alors, le début du Move du Groove est en fait une opportunité que j'ai eue, qui m'a été offerte par Arnaud de Radio Campus à Lille, qui m'a offert la possibilité d'avoir une chronique dans son émission, que j'ai menée à bien pendant 2 ans, je crois. Et ensuite, pour des raisons de planning, ça s'est stoppé. Et c'était une chronique au cours de laquelle je faisais découvrir 3 morceaux... 3 coups de cœur du moment et 3 anciens coups de cœur de derrière les fagots que je tirais de ma discothèque personnelle. Et cette chronique a disparu, je l'ai récupérée en créant une page Facebook, donc du Move du Groove, sur laquelle je fais gagner des places de concert de temps en temps. Et aussi sur laquelle je publie, alors là j'étais un petit peu fort occupée ces derniers temps, mais... En général, le vendredi midi, je publie une espèce de préconisation et de bons plans sorties et concerts que l'on peut repérer, sont des bons plans complètement subjectifs et qui concernent la proche région, la France, l'Europe, la planète.